Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Puisque ce 1er novembre, on célèbre les défunts, une pensée pour les migrants morts en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe pour fuir les zones de conflit. Avec une année 2016 qui s'annonce des plus meurtrières, alors même que les migrants ont été moins nombreux à tenter la traversée. Au moins 3800 personnes ont péri depuis janvier, déjà plus que pour l'ensemble de l'année 2015. Avec le souvenir de naufrages plus meurtriers que d'autres, en Sicile, la première phase des opérations destinées à rendre une identité aux migrants disparus dans le naufrage du 18 avril 2015 vient de prendre fin. Elle se déroulait depuis plus d'un an sur la base militaire de Melilli, où il ne reste aujourd'hui plus que l'épave du bateau, Cécile de Barge.
Il semble avoir été posé là par erreur. Bateau de pêche à la carcasse bleue et rouille, ridiculement petit au milieu des cheminées des usines pétrochimiques qui cernent la base militaire de Melilli. Ridiculement petit aussi pour transporter à son bord près de 900 personnes, 28 seulement avaient survécu au naufrage. Les autres sont arrivées sur la terre ferme, mortes, lorsque ce bateau devenu tombeau a été remonté du fond de la Méditerranée et ramené en Sicile pour identifier les victimes. Il aura fallu des semaines de travail des pompiers pour sortir un à un les corps de l'épave. Ils étaient au moins 458 entassés dans la cale, la salle des machines et même à l'avant du bateau, là où se trouve la chaîne de l'ancre. Les médecins légistes ont encore au moins un an de travail dans les laboratoires de Milan pour y analyser tous les échantillons recueillis. Il ne reste donc sur la base militaire que ce bateau qui aurait dû être détruit à la fin des opérations. Mais sa carcasse vide est devenue un symbole de ses naufrages, de ses vies perdues, un symbole aussi de l'effort italien, absolument inédit en Europe, fait pour tenter de retrouver l'identité de ses victimes. Au lendemain du naufrage, en avril 2015, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, avait dit que l'Italie irait chercher ce bateau au fond de la mer et montrerait ainsi à l'Union européenne les conséquences de ses politiques de fermeture de frontières. Aujourd'hui, c'est à Bruxelles que les Italiens pensent envoyer le bateau. Si l'hypothèse semblait farfelue à certains au vu des moyens techniques à déployer, elle a été confirmée par le sous-secrétaire d'État Domenico Manzione. L'épave du bateau serait alors chargée sur un autre bateau plus gros et remonterait par la mer toute l'Europe jusqu'à un port proche de la capitale belge. Plusieurs sponsors privés se sont déjà manifestés pour financer l'opération qui pourrait avoir lieu d'ici un an.
We'll be proud to say, I am an European.
Il y a les migrants qui tentent de sauver leur vie en rejoignant l'Europe dans l'espoir d'y obtenir le droit d'asile. Et puis, il y a l'immigration régulière, légale, pour laquelle de nombreux chiffres, souvent erronés, circulent pourtant. D'où l'intérêt de la toute dernière étude de l'Institut européen de statistique Eurostat sur les nouveaux titres de séjour délivrés dans l'Union européenne en 2015. Des données qui permettent aussi de faire le lien entre l'immigration et les demandes d'asile déposées par les réfugiés. Pour nous en parler, nous retrouvons Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, les pays de l'Union ont-ils tendance à réduire, comme on l'imagine, l'immigration extra-communautaire?
Clairement non, Laurent. En 2015, les 28 membres de l'Union ont délivré un premier titre de séjour à 2,6 millions de personnes en provenance des pays extérieurs à l'UE, soit une augmentation significative de 12% par rapport à 2014. Et il est intéressant de souligner que parmi les motifs de délivrance d'un permis de séjour, l'emploi est celui qui a le plus progressé, 23%, ce qui montre que l'activité économique est en reprise dans l'UE.
Alors pour le coup, on imagine que le premier pays d'accueil reste l'Allemagne?
C'est une erreur couramment faite parce que l'Allemagne a vu rentrer sur son territoire un très grand nombre de réfugiés ces derniers mois. Mais en ce qui concerne l'immigration légale, le pays le plus ouvert depuis plusieurs années est le Royaume-Uni. L'an dernier, ce pays a délivré plus de 630 000 titres de séjour, soit près du quart du total européen. L'Allemagne est très loin derrière, avec 195 000 entrées légales, chiffre inférieur même aux 226 000 permis délivrés en France.
Malgré tout, Daniel, les réfugiés, eux, ne vont-ils pas à terme se transformer en immigrés légaux?
Alors, il faut bien comprendre. Un réfugié qui dépose une demande d'asile est considéré comme un demandeur d'asile. Ce statut transitoire ne constitue pas formellement un titre de séjour et il ne rentre donc pas dans les chiffres de l'immigration. En revanche, l'octroi du statut de réfugié vaut titre de séjour, qui peut être aussi accordé pour des raisons humanitaires. Compte tenu des délais d'examen des dossiers, plus d'un an en général, on peut donc prévoir que l'énorme afflux de demandeurs d'asile outre-Rhin l'an dernier se traduira en 2016 par une très forte hausse des permis accordés au titre de l'asile ou pour des raisons humanitaires.
Alors pour en revenir à l'immigration légale, les titres de séjour sont délivrés dans le cadre du regroupement familial, de l'emploi et de l'éducation, c'est bien ça?
Les trois motifs varient bien sûr selon les pays. Pour la France, sans surprise, le regroupement familial justifie plus de 40% des permis octroyés. Mais attention, seulement 12 000 titres sur 92 000 accordés pour raisons familiales concernent des étrangers faisant venir leur famille en France, les autres étant des Français accueillant leurs parents étrangers. Mais la France n'est pas du tout la championne du regroupement familial en Europe. Ainsi, le motif familial justifie 69% des titres de séjour en Allemagne, 61% en Italie et 53% en Espagne. Par ailleurs, en France, 31% des permis sont délivrés au titre de l'éducation. C'est un peu moins qu'au Royaume-Uni, 36%, mais beaucoup plus qu'en Allemagne, moins de 9%. Les migrants étudiants les plus nombreux sont les Chinois, qui ont été plus de 100 000 à venir dans l'Union européenne l'an dernier, principalement au Royaume-Uni, mais également en France.
Alors qu'en est-il de l'immigration économique, celle qui est motivée par l'existence d'un emploi dans le pays d'accueil?
Sur ce sujet, les idées reçues en prennent un coup. Savez-vous, Laurent, qu'en nombre absolu, il y a eu l'an dernier plus de permis de séjour délivrés au titre de l'emploi en France qu'en Allemagne? 21 000 contre 13 000. Alors l'explication en est simple. Depuis plusieurs années, les migrants venus en Allemagne pour y occuper un emploi sont essentiellement des citoyens de l'Union européenne, espagnol, français ou italien. Dans ce domaine, le Royaume-Uni est très attractif puisque 120 000 titres de séjour ont été délivrés l'an dernier pour des motifs de travail. Mais on ne le sait guère, le pays de l'Union qui accueille de très loin le plus grand nombre de migrants venus occuper un emploi est la Pologne. 375 000 personnes venues pour l'essentiel d'Ukraine. La Pologne est donc en train de compenser les nombreux départs de ses nationaux vers l'Angleterre ou l'Allemagne par des travailleurs venus de ses voisins ukrainiens et biélorusses.
Et globalement, Daniel, quelles sont les nationalités de migrants les plus nombreuses en fonction des pays?
Le panorama est très diversifié. Outre la Pologne, dont l'immigration est à 93% ukrainienne ou biélorusse, le Royaume-Uni accueille près de 45% de migrants américains ou chinois. Dans les autres pays, les deux nationalités les plus représentées parmi les migrants ne dépassent pas le quart du total. En France, ce sont les Algériens et les Marocains. En Allemagne, les Syriens et les Turcs. En Italie, les Marocains et les Albanais. Donc, l'immigration dans l'Union européenne est assez ciblée par pays, même si l'afflux de réfugiés constaté depuis 2015 ne va pas manquer de faire monter dans les chiffres la proportion de Syriens, d'Irakiens ou de Soudanais.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info.
À bientôt Laurent.
En France, on a souvent du mal à trouver un médecin généraliste, surtout hors des grandes villes. Et paradoxalement, les études de médecine sont de plus en plus sélectives. Les étudiants doivent passer un concours à la fin de la première année pour pouvoir poursuivre, mais plus de la moitié sont éliminés. C'est que dans l'Hexagone, un numerus clausus, souvent critiqué, limite strictement le nombre de praticiens autorisés à exercer. Alors pour contourner cette sélection sévère, de nombreux étudiants français décident d'aller en Belgique. Là-bas, pas de concours et plus de solidarité, disent les Français, sauf que la Belgique, elle aussi, a tenté de mettre en place un concours. Reportage de Laxmi Lota.
Nous sommes dans un bar du campus universitaire de l'ALMA. Jeanne et ses amis sont tous français, venus étudier la médecine en Belgique. Juste ici, ça s'appelle comment ?
Le Manhattan.
Et vous y allez souvent ? Enfin, vous avez le temps de vous amuser quand même ?
Tous les jours, on y va.
Après les cours, ouais, ça arrive.
Ouais, après les cours, ouais.
Bah là, pour réviser, on est souvent en bibliothèque ou alors chez nous, travailler avec des amis. Mais souvent, après les cours, on aime bien aller boire une petite bière dans un bar ou voilà, jouer au kicker ou au billard.
L'ambiance est détendue. Jeanne Ropers est en troisième année de médecine. Elle arrive d'un village près de Saint-Étienne.
J'ai d'abord essayé de passer le concours en France. J'ai pas été prise parce qu'il y a un numerus clausus qui est assez restreint. Et donc, du coup, j'ai trouvé la Belgique et voilà, qui pouvait éviter le concours. Plus simple d'y accéder. Après, c'était par tirage au sort. Donc, il y avait quand même des chances. Il y a une très bonne ambiance entre tous les étudiants. On est tous au même pied d'égalité et tout le monde s'entraide. qu'ils soient français, italiens, espagnols ou belges.
Seuls 30% d'étudiants étrangers peuvent s'inscrire en médecine. Sam Descamps, 20 ans, est venu en Belgique pour les mêmes raisons que Jeanne. Il a vu ses amis rater leur première année de médecine en France.
Bah voilà quoi, on s'enferme pendant un an et j'en connais beaucoup qui, après avoir passé un an de médecine et avoir raté cet énorme investi, ont vraiment le sentiment d'avoir perdu une année de jeunesse. Entre 18 et 20 ans, il se passe plein de choses, c'est capital, c'est important. On a des amis en plus qui nous lâchent des photos sur Facebook parce qu'ils étaient en Afrique, sur le dos d'un éléphant ou je ne sais quoi. Et toi, t'es là sur ton carnet à faire des choses qui ne servent à rien vu que tu vas rater ou que tu penses qu'il y a moyen que tu rates. C'est pas facile, ouais.
Mais ces facilités belges pourraient bientôt disparaître. En juin dernier, tous les étudiants de première année ont dû passer un concours éliminatoire mis en place par le gouvernement fédéral. Suite à une plainte des étudiants, le Conseil d'État a déclaré que ce concours était illégal. Par ailleurs, la ministre de la Santé a annoncé que tous les étudiants actuellement en médecine n'obtiendraient pas forcément le sésame pour pouvoir exercer à la fin de leurs études. Le numéro INAMI. C'est le numéro qui permet de s'établir en tant que médecin. Conséquence de cette nouvelle limitation, l'ambiance entre étudiants se dégrade. Nicolas Pierre, un étudiant belge en cinquième année.
Avec les Français, comme avec tout le monde, elle est grosso modo bonne. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend d'histoire de numéro INAMI, etc., il y a des tensions qui peuvent exister, des compétitions pour qui aura la place à tel stage, qui pourra faire quelle spécialité. Alors on se demande qui a des bons points, etc. Et forcément, chacun pense d'abord à soi. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose particulièrement envers les Français.
Et les étudiants s'inquiètent pour leur avenir. Sans ce numéro INAMI, ils ne pourront pas exercer. Jeanne Ropers et Rémi Andrieux envisagent de rentrer en France une fois leur diplôme en poche.
Ouais, je pense qu'on est tous inquiets et que même si on a la solution de repartir en France, par esprit de solidarité, je pense qu'il faut quand même, être avec tous les Belges et pour réussir à avoir tous ces numéros INAMI, même si on n'en a pas forcément nous besoin. C'est un peu dommage, parce qu'on est là pour soigner les gens, mais si on n'est pas assez nombreux pour les soigner, c'est plus de la médecine. Si on passe 10 minutes ou 5 minutes et qu'on fait tourner de plus en plus de patients, on ne prend pas soin de bien faire notre travail, ce que je pense.
Un peu, c'est sûr, parce que là, la concurrence, on va en parler en 6e année, parce qu'une personne sur 2, une personne sur 4 recevra un numéro INAMI, ça dépend encore du chiffre. Donc oui, ça m'inquiète. Après, étant française, je peux retourner en France et exercer même sans numéro INAMI. Bon, après, je crée aussi des choses ici. Ma vie se monte un peu en Belgique. Je rencontre de nouvelles personnes. 6 ans d'études plus 3 ans de spécialisation, ça va faire 9 ans que je vais rester en Belgique. Donc à mon avis, il y a de fortes chances que j'ai quelques racines ici qui s'installent. Mais après, je suis libre de bouger si j'ai envie, quoi.
Sans doute, les étudiants français seront-ils moins nombreux ces prochaines années à venir en Wallonie pour étudier la médecine. Côté belge, de plus en plus d'étudiants optent pour un autre pays que le leur également, la Roumanie.
Et en ce 1er novembre, on se souvient aussi de ces milliers de Turcs alévis massacrés par l'armée en 1938. Ces massacres ont été recouverts d'une chape de plomb plusieurs décennies durant. Une chape qui commence tout juste à craquer dans les discours officiels, mais aussi et surtout grâce à des historiens et des acteurs de la société civile. C'est la mission que se sont donnée une productrice de musique et de documentaires et un spécialiste d'histoire orale à Istanbul, le reportage d'Anne Andlauer.
Ce n'est ni vraiment un chant, ni vraiment un poème. C'est un cri, une plainte, un pleur. Certains décrivent ces aot, c'est le nom qu'on leur donne en turc, comme le son qu'émettrait le cœur lorsqu'il tremble, lourd de douleur. La douleur d'une perte, la mort d'un être cher ou une tragédie collective. L'aot qu'interprète ce vieil homme s'appelle « La rivière des cadavres ». À l'été 1938, dans la province du Dersim, l'armée de la jeune République turque lance une opération sanglante qui fera officiellement plus de 13 000 morts. Des civils désarmés dans leur immense majorité, dont beaucoup n'ont pas de sépulture, comme les 47 fusillés de cette rivière des cadavres. Dersim est une région montagneuse de l'est de l'Anatolie. La géographie officielle l'appelle « Tunceli ». Mais ses habitants séculaires, des Kurdes de croyance alévi, l'ont toujours appelé Dersim. Ils ont aussi un mot dans leur langue, le Zazaki, pour désigner le grand massacre qui a décimé leurs ancêtres à l'été 1938, Tertele. C'est ce mot qu'ont donné comme titre la productrice Niloufer Saltuk et le spécialiste d'histoire orale Jemal Tash, originaire du Dersim, à l'ouvrage monumental qu'ils viennent de publier. 500 pages, 3 CD et un point de vue inédit pour raconter le Tertelé, celui de ses lamentations chantées en zazaki, traduites en turc et en anglais, enrichies de sources historiques, de photos d'époque et récentes collectées sur les lieux évoqués dans ses plaintes. Niloufer et Jemal expliquent ce choix éditorial.
Ce qu'on entend, ce sont les aeut du Tertelé. Ces plaintes touchent les gens au cœur, c'est ce que nous voulions.
Les interprètes ont presque tous 80, 90, voire 100 ans. Ils ont été témoins du Tertelé, ils vivent avec sa douleur. En même temps, nous avons fait un travail d'archives, car certains aeut ne sont répertoriés nulle part.
Pendant 4 ans, Jemal et Niloufer ont parcouru les montagnes et les hauts plateaux du Dersim pour collecter 33 aeut et les histoires qu'ils racontent. En remontant leurs traces, ils ont trouvé des lieux cachés, notamment une grotte près de la rivière Latch, là où des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont morts en 1938, torturés, bombardés, fusillés, décapités. L'épisode de cette grotte où s'étaient réfugiés des dizaines de victimes fait l'objet d'un aeut interprété ici par Solo Kutch, un survivant.
Nous savions qu'il y avait deux grottes à Latch, mais nous n'en connaissions qu'une. Quand nous avons découvert l'autre, nous avons aussi découvert des os et des balles de 1938.
Dersim est une région escarpée de rochers et de précipices. Les gens du coin me parlaient depuis longtemps de l'existence de cette grotte, mais personne n'y était allé, car elle était inaccessible, surtout aux plus âgés.
Mais nous avions des photos d'époque de l'extérieur de la grotte. La couleur des roches, leur forme, nous sommes appuyés sur ces détails pour la mettre au jour.
Leur travail est une brèche dans l'histoire officielle qui n'a jamais reconnu les massacres du Dersim. Hassan Saltuk, le mari de Niloufer, qui est né à Dersim, collecte depuis 20 ans des photos et des documents qui crient pourtant le contraire.
L'histoire officielle raconte qu'il y a eu une révolte kurde qui a justifié l'opération. Mais les documents secrets que j'ai trouvés montrent qu'il n'y a rien eu de tout cela, que la plupart des villageois avaient été désarmés bien avant que l'opération ait été préparée à Ankara depuis longtemps. Il faut croire que l'État sunnite n'appréciait pas une telle concentration d'Alevis dans une seule région. La situation du Dersim était en effet inédite. Le but de l'opération était de disperser cette population en Anatolie.
Quoi qu'en disent les livres d'histoire, à Dersim, les traces des massacres sont gravées dans les pierres et la mémoire des rescapés, comme la mère d'Hassan.
Ma mère était encore dans le ventre de sa mère. Cette dernière doit la vie à un soldat qui l'a prévenue au dernier moment, juste avant une fusillade. Quant à mon père, il a survécu dans une grotte avec ses frères et sœurs, en mangeant du blé pendant 7 jours. Mais beaucoup de ses proches ont été tués. Nous avons grandi avec ces histoires racontées à demi-mot, avec ce traumatisme. Nos parents, pour nous protéger, ne nous ont pas appris le zazaki.
Jemal Tash aussi a grandi et vieilli avec le poids de cette histoire et le poids de l'absence des morts et du silence des rescapés. Au moins 19 de ses ancêtres ont été tués l'année du Tertelé. Jemal a appris la langue zazaki contrairement à ses deux enfants.
J'aurais voulu que mes enfants ressentent ces aeut dans leur chair, mais ils ne les comprennent pas. Ils ne sont pas aussi sensibles que moi à ces événements. Il n'y a rien de plus douloureux. Si on me demandait ma dernière volonté, comme pour les condamnés à mort, je demanderais à pouvoir parler, me lamenter, pleurer avec mes enfants dans cette langue.
Le livre qui vient paraître a donné lieu à Istanbul à une courte exposition. Niloufer Saltuk et Jemal Tash rêvent désormais de faire voyager leur travail en Turquie et en Europe, pour que la douleur des aeut ne tombe pas dans l'oubli avec les derniers survivants des massacres du Dersim.
Jérémy Bessé a réalisé et mis en onde Accent d'Europe. On se retrouve demain dès 12h40 en universel pour parler de Vladivostok en plein renouveau.